Vous parlez d'interception, il s'agit bien d'interception de drones.
De drones et parfois de missiles, hein, puisqu'il y a eu un certain nombre de missiles qui ont été lancés aussi sur les Émirats par l'Iran.
Est-ce qu'il y a beaucoup de Français autour de vous, des résidents, hein, pas des touristes, qui ont demandé à partir ou qui sont partis même?
Sur les 60 000 Français qui résident aux Émirats, on estime à peu près un tiers les gens qui sont partis, mais ils sont partis en vacances pour l'essentiel, ou ils sont partis quelques semaines. Il y avait des vacances scolaires qui étaient prévues au mois de mars, donc beaucoup sont partis comme ils l'avaient prévu, parfois un peu en différé compte tenu des problèmes de transport, mais voilà, donc il ne faut pas le voir comme un départ nécessairement ni très long ni très permanent. En revanche, les Français qui ont pris la décision de quitter les Émirats Arabes Unis sont rares aujourd'hui.
Le cessez-le-feu est de 15 jours pour le moment. Est-ce que vous y croyez? C'est tout de même une lueur d'espoir.
C'est une grosse lueur d'espoir, hein, le cessez-le-feu. Compte tenu de l'intensité que ces derniers jours, les démonstrations verbales de force entre les uns et les autres avaient prises, le fait qu'il y ait un retour à une forme de raison, je pense qu'est rassurant pour tout le monde. Après, on voit bien qu'il y a encore des entorses, on voit bien qu'il y a beaucoup de tensions, on voit bien que les conditions des uns et des autres vont demander un gros travail de réconciliation. J'ai malheureusement pas de boule de cristal et je pense que personne n'en a, mais aujourd'hui on est tous plutôt optimistes. J'ai eu la chance d'organiser un petit événement dans un hôtel, on était 50, les gens étaient de bonne humeur, étaient optimistes, étaient soulagés. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai espoir. Après, les gens sont conscients aussi de la volatilité et des risques, hein. On est tous maintenant soulagés, mais en revanche, toujours vigilants évidemment. Il faut rester vigilant pour la suite.
Geoffroy Buntel, joint par Corinne Manjou, c'était Vivre Ailleurs. Ce sera tout à l'heure, 11h10, temps universel, l'atelier des médias sur RFI. Steven Jambeau reçoit les géopolitologues Selma Mioubi pour discuter des dynamiques médiatiques dans les pays de l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger. Les autorités militaires s'y appuient sur les médias pour asseoir leur souveraineté. Elles ont ainsi lancé à Ouagadougou, il y a quelques mois, une radio nommée La Voix du Liptako.
L'objectif de cette radio est de diffuser des programmes dans le sens de leur régime narratif, donc autour de ces trois axes, diffuser des contenus qui vont saluer la souveraineté retrouvée de ces trois États, véhiculer une promotion des forces armées et le narratif de la montée en puissance de l'armée nationale, cette montée en puissance pour mieux lutter contre le terrorisme. Et donc les formes que ça va prendre, ça va être de la diffusion de reportages, de contenus et surtout de la reprise de contenu des médias nationaux de services publics ou médias d'État, appelez-les comme vous voulez, de ces trois pays.
Donc on a l'ORTM au Mali, la RTB au Burkina et la RTN au Niger. Et on comprend qu'il y a donc trois pôles, un dans chaque capitale, avec la Voix du Liptako à Ouaga, donc au Burkina, AESTV qui est basé à Bamako, et à Niamey, il va également y avoir une agence de presse confédérale.
Tout à fait. En fait, il y a vraiment une recherche de coalition narrative, en fait, de coalition informationnelle pour diffuser un même narratif. Et d'ailleurs, les trois dirigeants des pays de l'Alliance des pays du Sahel l'ont dit eux-mêmes, les médias de service public de ces trois États doivent travailler pour le rayonnement du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, et diffuser des contenus qui vont véhiculer ces narratifs-là, et donc ces contenus qui vont être repris. Et donc il y a ce partage de contenus gratuit, justement, pour s'assurer en fait d'un alignement narratif.
Selma Mioubi, docteur en géopolitique, vous la retrouverez à 11h10, temps universel sur RFI avec Steven Jambeau. Et comme chaque semaine, l'atelier des médias est déjà disponible pour la réécoute en podcast sur le site et l'application d'RFI. Une courte pause, 30 secondes à peine, et puis vous retrouvez Xavier Besson pour une demi-heure d'infos africaines. Restez à l'écoute.
Édition spéciale, élections législatives en Hongrie.
Andréane Mellard.
Viktor Orban va-t-il devoir céder sa place après 16 ans d'affilée au pouvoir en Hongrie? Derrière ces législatives, l'enjeu, c'est l'Ukraine, l'Europe, l'influence de la Russie et celle de l'Amérique de Donald Trump. RFI est à Budapest pour vous faire vivre ces élections. Avec nos invités, sur place, on décrypte les résultats dès dimanche soir, 18h10, temps universel sur RFI.
Vous écoutez Radio France Internationale, il est 6h30 à Kigali et à Khartoum, 4h30 en temps universel. Et c'est le début d'une demi-heure d'actualité africaine. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Et à la une de votre journal des concerts et du fond, nous sommes dans un instant à Lubumbashi.
La grande ville du sud-est de la RDC, hôte ce week-end du festival Amani, festival qui entend promouvoir la paix dans l'est congolais. Hier, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, a appelé à financer ses projets pour les villages de retour des déplacés du nord et du sud Kivu. Dans ce journal également, portrait de Marcel Nyat Njipenji, premier président du Sénat camerounais, créé en 2013. Il est décédé hier. L'île Maurice, qui promet de trouver des voies légales et diplomatiques, après que le Royaume-Uni a confirmé hier suspendre le processus de rétrocession des îles Chagos. Et puis les sports, dans une dizaine de minutes avec Antoine Grenier, week-end de demi-finale aller des Coupes d'Afrique des clubs de football. Un natif de Kinshasa, le rappeur Youssoupha, vedette d'un festival organisé normalement à Goma, mais délocalisé cette année pour des raisons de sécurité à Lubumbashi. Difficile de faire plus congolais que le festival Amani ce week-end dans la capitale de la province du Haut-Katanga. Un festival de musique, mais avec un objectif, promouvoir la paix dans l'est de la RDC, aujourd'hui en partie contrôlée par les rebelles de l'AFCM-23. Et en marge des concerts, hier, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, a lancé un appel aux bailleurs de fonds. Il lui manque 8 millions de dollars pour financer ses actions prévues dans les villages de retour des déplacés des provinces du Nord et du Sud Kivu. Correspondance de Denise Maillot.
Pour le chef de bureau du PNUD à Goma, présent à ce festival, au-delà de l'action humanitaire d'urgence, il faut en même temps s'atteler au développement des communautés concernées. Patrick d'Oliveira.
On est entré dans une logique de solution durable. Donc, on lance un appel à tous ces donateurs de nous accompagner dans la deuxième phase de la mise en œuvre, vu que la crise est en train de s'éterniser.
Sur le terrain, des ONG locales de Goma accompagnent déjà plus de 10 000 personnes à Masisi, Niragongo et Sake, avec l'appui du PNUD. Safi Anifa est la coordinatrice de l'association des démographes ADAF, basée à Goma.
Nous avons appuyé 160 femmes et jeunes filles brutalement retournées dans leur milieu d'origine. Et nous les avons appris à faire les savons, faire la couture, et transformer les déchets ménagers à briquettes écologiques.
Au festival, sacs, habits, fromages fabriqués par les bénéficiaires du Nord Kivu du programme du PNUD sont exposés. Un symbole de résilience, explique David Ngoufou, chef de projet à la coopérative Tuungana, lui aussi de Goma.
Tous ces articles sont fabriqués par les mamans qui commencent à revivre, qui commencent à retrouver de l'espoir.
Le festival Amani se clôture ce soir avec la prestation de la star congolaise Innocent Baloumi. Denise Maillot, Lubumbashi, RFI.
Lubumbashi est sa région, zone minière par excellence, mais en ce moment, en RDC, c'est une autre ressource qui est source d'inquiétude. Comme de nombreux autres pays, la RDC attentive aux derniers événements de la guerre au Moyen-Orient et à leurs répercussions sur le prix et la disponibilité des carburants. À la fin du mois dernier, alors que le ministre des hydrocarbures déclarait que Kinshasa ne connaissait aucune pénurie, les automobilistes de la capitale ont tout de même constaté des difficultés à s'approvisionner. Et même si cela n'a duré que quelques jours, l'épisode a marqué les esprits. Alexandra Branjon.
Fin mars, dans les rues de Kinshasa, le carburant se vendait entre 4 000 et 5 000 francs congolais le litre sur le marché parallèle, contre 3 000 francs congolais quelques jours auparavant. Une flambée qui n'a duré que quelques jours, mais qui rappelle la vulnérabilité de la RDC. Le pays importe la totalité de ses produits pétroliers raffinés, essence, gasoil, kérosène et autres dérivés, ce qui le rend vulnérable aux moindres tensions sur les marchés internationaux, explique Jacques Moukena de l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence.
Le Congo produit du pétrole, mais n'en raffine pas. Et donc, il y a une forte dépendance de tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, s'il y a une forte pression, on va dire au Moyen-Orient ou au niveau international, cela va affecter immédiatement la RDC. Et on l'a vu à plusieurs reprises, lors du Covid, la guerre en Ukraine, conflit à Gaza. Donc, dès qu'il y a eu une sorte de choc externe, cela a toujours un impact direct sur le carburant.
Une fragilité accentuée par l'absence d'usines de raffinage dans le pays et par le fait que le prix du carburant est fixé par le gouvernement pour éviter que tout choc extérieur ne se répercute sur le prix à la pompe. Une sorte de subvention qui, sur le long terme, coûte cher et pèse sur les comptes publics, surtout quand le Brent s'envole comme fin mars, quand le cours a frôlé les 120 dollars le baril.
Le cours du Brent qui est retombé ce matin, il s'établit à 95 $ le baril, mais c'est toujours bien plus haut qu'au mois de février avant la guerre lancée par Israël et les États-Unis. Dans une demi-heure, nous serons en direct avec notre correspondante au Pakistan après la fin sans résultat cette nuit des premières discussions à Islamabad entre l'Iran et les États-Unis. RFI 5h35 à Yaoundé, le Cameroun, où l'on a appris hier le décès de Marcel Niat Djifendji, le tout premier président du Sénat camerounais qui était encore en poste le mois dernier. Marcel Niat Djifendji, 92 ans, proche du président de la République, Paul Biya. Il a occupé pendant des décennies des fonctions importantes dans la haute administration camerounaise. Son portrait avec Polycarpe Essomba.
Marcel Niat Djifendji est né à Bangangté dans la région de l'Ouest Cameroun en 1934. Ingénieur de formation, il a voué une partie de sa trajectoire professionnelle au secteur de l'énergie au Cameroun, notamment au sein de la Société nationale d'électricité SONEL, qu'il a dirigée avant sa privatisation pendant plus de 20 ans, entre 1974 et 2001. Après cette longue expérience de gestionnaire, il va accéder aux fonctions gouvernementales, d'abord au ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire, puis comme vice-premier ministre en charge des questions de l'eau et de l'énergie. Au début des années 2000, il va exercer un mandat d'élu local en qualité de maire dans sa ville natale de Bangangté. Après une éclipse de quelques années et à la faveur de la mise sur pied du Sénat en 2013, il est propulsé à la tête de cette institution au destiné de laquelle il va présider sans discontinuer jusqu'en mars 2026. Ces dernières années, il était apparu très affaibli par la maladie, la presse faisant régulièrement l'écho de ses séjours médicaux en Occident. Jusqu'à son remplacement à la tête du Sénat il y a quelques semaines, il était la deuxième personnalité dans l'ordre protocolaire du pays, avec pouvoir de succession au président de la République en cas de vacances.
Une présidence qui, là, s'apprête à changer. C'est au Bénin, jour d'élection présidentielle, ce dimanche. Après deux mandats à la tête du pays, Patrice Talon ne se représente pas et le scrutin du jour met aux prises deux candidats. Le ministre actuel de l'économie, Romuald Ouadani, et l'opposant Paul Ungpe du parti FCBE. Un scrutin sans le principal parti d'opposition, les démocrates, dont le dossier de candidature a été invalidé par la commission électorale, faute d'un nombre suffisant de parrainages. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial à Cotonou pour l'ouverture des bureaux de vote d'ici une heure et demie environ. Une élection interne, cette fois-ci, c'est en Afrique du Sud. Congrès ce week-end de la DIE, l'Alliance démocratique, la deuxième force politique du pays derrière l'ANC qui est au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. DIE, longtemps dans l'opposition, qui a accepté de faire partie d'un gouvernement de coalition après les dernières élections législatives et qui aimerait maintenant gouverner toute seule. En tout cas, elle s'y prépare. Correspondance de Claire Bargelès.
La foule, tout habillée de bleu, rêve de voir son parti prendre la tête du pays lors des prochaines élections générales de 2029. Mais la DIE devra pour cela parvenir à élargir sa base au-delà de son électorat blanc et métis traditionnel. Hélène Zillé, qui quitte son siège de présidente du Conseil fédéral, défend pour sa part une approche indifférente à la couleur de peau.
Nous nous identifions comme la communauté bleue. Ni noire, ni blanche, ni brune, mais bien bleue. Nous devons résister face à la pour la politique basée sur l'origine raciale, que ce soit du côté de l'extrême droite ou de la gauche woke.
Hélène Zillé est elle-même candidate pour la mairie de Johannesburg, alors que les élections locales doivent être organisées d'ici février. Elle a fait récemment parler d'elle pour s'être baignée dans un énorme nid de poule, rapidement comblé par le leader ANC de la municipalité. La DA cherche donc à s'étendre au-delà de son bastion de la ville du Cap, en s'appuyant notamment sur ses réalisations au sein du gouvernement de coalition. Son dirigeant sortant, le ministre de l'Agriculture John Steinhuisen.
Nous ne sommes plus un simple parti régional ni une éternelle formation d'opposition. Nous sommes une force nationale capable de réformes. Un parti de gouvernement qui est déjà au travail pour améliorer l'état de l'Afrique du Sud.
C'est l'actuel maire du Cap de 39 ans, Jordan Hill Lewis, qui est le candidat favori pour le remplacer, alors que le scrutin interne se déroule ce dimanche. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Dans l'actualité des pays africains, ce matin également la Libye et cet accord inédit hier, depuis que le pays est coupé en deux entre l'Est et l'Ouest, un budget de l'État unifié a été approuvé hier, à la fois par les parlements de Tripoli et de Benghazi. Annonce faite par la Banque centrale libyenne qui parle de progrès réels vers l'unification de la politique budgétaire et qui salue aussi le rôle positif des États-Unis dans le soutien aux efforts de médiation. Et puis des discussions sont tout de même prévues dans 10 jours entre Port-Louis et Londres, mais c'est bien un coup d'arrêt dans le processus de rétrocession de l'archipel des Chagos à l'île Maurice. Hier, le Royaume-Uni a confirmé donc une suspension de cet accord de rétrocession conclu l'an dernier. Les services du Premier ministre britannique évoquent l'attitude des États-Unis installée dans la base militaire sur l'île de Diego Garcia. Réaction immédiate des autorités mauriciennes. Le ministre de la Justice reconnaît que sur ce dossier, il est dépendant des relations entre Londres et Washington. Et le chef de la diplomatie mauricienne lui dit chercher des moyens légaux, notamment de mener la rétrocession à bien. Correspondance de Patrick Hilbert.
Pour les autorités mauriciennes, cette suspension s'inscrit dans un contexte diplomatique complexe. L'information que l'accord a été mis en suspens ne nous surprend pas, affirme le ministre de la Justice, Gavin Glover. Il pointe du doigt, je cite, « la détérioration des relations entre M. Starmer et M. Trump », rappelant que Londres est tributaire de l'aval de Washington pour faire avancer ce traité. Selon lui, les signaux envoyés par les États-Unis ont été fluctuants ces derniers mois. Le président américain a soufflé le chaud et le froid depuis une année maintenant, souligne-t-il, en rappelant qu'un feu vert initial avait permis la conclusion de l'accord en mai 2025, avant de changer de position à plusieurs reprises cette année. Gavin Glover insiste toutefois sur le fait que tout n'est pas perdu. Une réunion bilatérale est d'ailleurs prévue le 22 avril à Maurice avec l'équipe de négociateurs britanniques. De son côté, le ministre des Affaires étrangères mauricien, Ritesh Ramphal, promet de ne pas ménager ses efforts pour récupérer l'archipel. Il assure que le gouvernement explore des voies légales et diplomatiques pour finaliser la décolonisation et permettre aux Chagossiens, expulsés par les Britanniques durant les années 60 et 70, de rentrer au plus vite. Patrick Hilbert, Port-Louis, RFI.
À Port-Louis, où il est 8h41.
Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson.
6h41 ici à Paris. À suivre, reportage suite de notre série consacrée aux étudiants africains en France. Dans 5 minutes, on s'intéresse aux problèmes soulevés par l'augmentation des frais de scolarité pour les étrangers hors Union européenne. Également à suivre nos chroniques du dimanche. 100% création avec Maria Afonso et Yakwa sur tes réseaux. On parlera des terriens, ces humains qui laissent, accrochez-vous, s'exprimer leur part animale. Et tout de suite, ce sont les sports. Les sports avec Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Xavier.
Et du football ce matin, Coupe d'Afrique de club. Rabat démarre en trombe les demi-finales allées de la Ligue des Champions.
Les Phares ont attendu quasiment l'heure de jeu pour prendre l'avantage sur la Renaissance de Berkane grâce à l'expérience de leur attaquant Ahmed Amoudane avant de doubler la mise à 10 minutes de la fin par Khalid Warkane. Succès 2-0 des Phares qui aborderont ainsi le match retour avec sérénité. Deuxième demi-finale de cette Ligue africaine des Champions ce dimanche à 19h, temps universel. Un duel d'anciens vainqueurs entre l'Espérance de Tunis et les Mamelodi Sundowns.
En Coupe de la Confédération, pas de vainqueur hier dans la seconde demi-finale allée.
Sur sa pelouse du stade du 5 juillet, l'USM Alger a été tenu en échec par les Marocains de l'Olympique Club de Safi. Score final 0-0, pas forcément le résultat idéal, mais rien de préjudiciable non plus en vue du match retour la semaine prochaine. C'est en tout cas l'avis de l'entraîneur sénégalais de l'USMA, Lamine Diaye.
Forcément déçu parce que on a mis les ingrédients pour remporter ce match. Malheureusement, ça n'a pas suffi. On savait que ça allait être difficile, ça l'a été. De toute façon, ça se jouera sur les deux matchs. On a réussi un bon match sans victoire. Maintenant, un but de notre part les mettrait en grosse difficulté parce qu'il va falloir qu'ils en marquent trois même. Et je pense que malgré la déception, on est encore plus motivé que jamais. J'espère que les garçons vont nous mettre la même intensité, les mêmes ingrédients quoi, pour le match retour.
Lamine Diaye avec Sofiane Anani.
Et chez les dames, l'équipe féminine de RDC entame aujourd'hui en Thaïlande son tournoi FIFA Series.
Avec un premier match à Ratchaburi entre les Léopards et l'Indonésie, une occasion pour la formation congolaise de se relancer après n'avoir pas réussi à se qualifier pour la prochaine CAN féminine au Maroc. C'est en tout cas l'ambition de l'attaquante de Fenerbahçe et de la RDC, Olga Masombo.
C'est bien, on a eu deux entraînements avec une nouvelle coach et ça se passe bien. On a quelques nouvelles joueuses qui ajoutent beaucoup dans le groupe en espérant que ça va progresser le groupe vers le bon niveau. Pour la nouvelle équipe qu'on a affrontée, nous on les connaît à peine, mais on sait qu'on a confiance en nos qualités. Et on assure que de ceux qui ont travaillé, on peut battre n'importe quelle équipe. Pour nous, supporters congolais et congolaises, tout ce qu'on vous demande, c'est votre support et votre amour et vos prières, parce que nous, on va donner tout ce qu'on a pour ramener la victoire au pays.
Olga Massombo avec Olga Massangou, RDC Indonésie, coup d'envoi 9h, temps universel.
En cyclisme, Antoine Binyam Girmay, seul représentant africain sur Paris-Roubaix qui s'élance ce dimanche.
123e édition qui partira de Compiègne à 8h50, temps universel, 175 coureurs engagés et vous le disiez, Xavier, un seul africain, l'inévitable érythréen Binyam Girmay, premier coureur du continent, vainqueur d'une classique pavée, c'était Gant Wevelgem il y a 4 ans. Deuxième participation à Paris-Roubaix pour l'ancien maillot vert du Tour de France. L'an passé, le coureur NSN Cycling Team était arrivé 15e.
Et puis Antoine, c'est aujourd'hui aussi que se court le marathon de Paris. Une petite pensée d'encouragement pour Frédéric Suteau et Cédric de Oliveira du service des sports et aussi pour Amélie Tullet du service Afrique pour son premier marathon. Merci Antoine Grenier, c'était le journal des sports. L'essentiel de l'actualité internationale de ce dimanche 12 avril, des législatives avec du suspense en Hongrie pour la première fois depuis 16 ans. Le résultat est incertain. La Hongrie où deux camps s'opposent, celui de l'ultranationaliste Premier ministre sortant Viktor Orban, qui pourrait être battu dans les urnes par Peter Madiar, un ancien du parti du chef du gouvernement, mais un peu plus pro-européen. Les bureaux de vote ont commencé à ouvrir. Ce soir, RFI sera en édition spéciale depuis Budapest avec Andréane Mélard et ses invités. Rendez-vous à 20h10. Sort de Paris, jour de vote aussi au Bénin, jour d'élection présidentielle pour savoir qui succède à Patrice Talon. Après deux mandats à la tête du pays, il ne se représente pas, mais il soutient son ministre de l'économie, Romuald Ouadani, opposé à un seul autre candidat, Paul Ungpe, du parti FCBE. Le Pakistan appelle les Américains et les Iraniens à continuer d'observer le cessez-le-feu malgré l'échec des négociations entre États-Unis et Iran à Islamabad. Le vice-président américain J.D. Vance quitte le Pakistan sans accord avec Téhéran. Les demandes déraisonnables des États-Unis ont fait échouer les négociations, affirme ce dimanche la télévision d'État iranienne, alors que c'était la première fois depuis 1979 que des discussions se tenaient à un tel niveau de responsabilité entre les deux pays. C'est une décision qui relève de chaque établissement en France. Les universités publiques, depuis maintenant plusieurs années, ont la possibilité de faire payer plus cher les frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Et vraiment beaucoup plus, jusqu'à 16 fois pour les admissions en licence, 15 fois plus pour les masters. De fait, ceux qui sont les plus touchés, ce sont les étudiants en provenance du continent africain. Environ 140 000 par an, ils représentent la moitié des étudiants étrangers en France. Reportage de Sylvie Coffi.
Une hausse prévue dans le cadre du programme Bienvenue en France. Depuis 2019, ce programme permet d'appliquer des frais d'inscription différenciés. L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait partie de la dizaine d'universités françaises qui ont décidé d'appliquer la mesure. Une décision prise il y a 5 mois, les explications de la présidente Christine Nolleduc.
Bien entendu, une partie de nos étudiants vont contribuer au financement de notre université l'année prochaine, davantage qu'ils ne le font cette année. Mais voilà, pour des raisons budgétaires, nous sommes obligés d'augmenter ces droits. Ces droits sont fixés par un décret de 2019. Nous ne choisissons pas le montant qui est appliqué. C'est le gouvernement qui avait fixé ce montant.
Dans le cas de la Sorbonne, les étudiants étrangers provenant des pays membres de l'Union européenne et d'une quarantaine d'autres considérés par l'ONU comme étant moins avancés ne sont pas concernés. En revanche, ce n'est pas le cas de l'Égypte, de l'Algérie ou du Maroc, d'où vient Rania. En deuxième année de licence sciences politiques, elle se sent prise au dépourvu.
Si je décide de continuer mon master à Paris 1, je devrais payer 4000 euros par an. Un choix maintenant qui est remis en cause quand même. Je galère déjà pour me nourrir, me loger.
Les enseignants font de la résistance, ils mettent en place des moyens de pression. Victor, enseignant d'histoire à la Sorbonne.
On a voté en Assemblée générale le fait de mettre en place une rétention des notes. On corrige nos copies, les notes on les attribue, elles existent, mais on décide de ne pas les transmettre à l'administration afin d'enrayer le bon fonctionnement de l'université.
D'autres universités, elles, refusent cette mesure, comme l'université de Rennes 2, les explications de son président, Vincent Gouézé.
Ce n'est pas aux étudiants internationaux, en particulier les moins favorisés d'entre eux, les étudiants africains, notamment, de payer ou de subir notre déficit. De toute façon, si on appliquait les frais différenciés, les gains obtenus représenteraient une goutte d'eau face à notre déficit. En revanche, l'effet serait dissuasif pour de nombreux étudiants dont les revenus sont limités.
Dès la rentrée 2026, une autre mesure viendra noircir le tableau. L'aide personnelle au logement sera supprimée pour les étudiants extra-communautaires non boursiers.
Sylvie Coffi, et c'était en fait une série de reportages ces trois derniers jours sur les étudiants africains en France. Tous sont à réécouter sur RFI.fr. Il est 6h50 ici à Paris, 22h50 à Mexico, et c'est l'heure de Y'a quoi sur tes réseaux, la chronique qui s'intéresse tous les dimanches aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, y'a quoi sur les réseaux de Diego au Mexique? Il y a une tendance virale, les terriens. Explication nécessaire de Coralie Pierret.
Imaginez un adolescent mexicain, Diego, 16 ans, qui scrolle sur TikTok et qui tombe sur quelqu'un qui aboie. Pas un animal, hein, un homme, plus précisément un terrien.
C'est un phénomène où des personnes s'identifient comme des animaux, comme notamment des chats, des loups ou des chiens.
Hey, para, amigo.
Moi je pensais plutôt que c'était un truc fait par l'IA ou des choses comme ça, car c'est vraiment un truc un peu étrange mais qui est là. Et c'est devenu très populaire. Que des gens commencent à se déguiser avec des masques, des queues, en prenant le comportement animal.
Cette trend, elle vient de la terrianthropie, un mouvement qui existe depuis les années 90, mais qui a trouvé une nouvelle popularité sur TikTok. En clair, ce sont des personnes, souvent jeunes, qui se sentent connectées à un animal. C'est ni un costume, ni un jeu, c'est une part profonde de leur identité qu'elles décident de montrer. Comme ici dans cette vidéo, où des jeunes osent révéler leur nom de terrien et l'animal qui vit en eux, une sorte de coming out, mais version poil et griffes. D'autres filment leurs sauts, parfois impressionnants, dignes d'un guépard. Et ça s'appelle le quadrobique, une pratique quasi sportive. Et derrière toutes ces scènes visibles sur les réseaux, le phénomène s'étend, y compris en dehors des écrans.
C'est très spécifique du monde hispanophone et notamment de l'Amérique latine. Moi, j'ai pas encore croisé un terrien. Après, je sais que dans d'autres pays comme l'Argentine, où c'est le pays où il y a vraiment des vrais terriens, il y a eu des dizaines de réunions et il y a vraiment des terriens dans la rue, dans la ville, qui sont là et qui vivent comme des animaux.
En Argentine d'ailleurs, où Javier Milei, le président, est le héros de vidéos générées par l'intelligence artificielle. Comme celle où le chef d'État dans la rue court après des terriens en leur hurlant « Mettez-vous au travail !»
En gros, il n'y a pas eu vraiment une réaction au niveau politique. Il y a plutôt une réaction sociale des influenceurs proches de l'extrême droite qui en fait s'attaquaient au mouvement et après bah, ça crée un peu un débat sur les réseaux. Est-ce que c'est légitime ou c'est illégitime avec des influenceurs plutôt proches de la gauche et les influenceurs proches de la droite?
El delirio es absoluto, tan mal de la cabeza.
Une tendance très moquée sur les réseaux. Certains TikTokers s'amusent à devenir terriens juste le temps d'une vidéo.
Bah justement, en Amérique latine, comme on l'avait dit dans le dernier épisode, on est assez moqueur de tout ce qui se passe. Et en fait, il y a des gens où vraiment je me dis, mais toi tu le fais car c'est la tendance TikTok. Mais après, il y a des gens qui continuent encore aujourd'hui à être des terriens et qui en font encore des vidéos. Ils ne cherchent pas des likes, mais ils cherchent à montrer un peu leur identité, quoi.
On retrouvera Diego depuis Mexico dans un prochain épisode. Y'a quoi sur tes réseaux? À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Y'a quoi sur tes réseaux? C'était Coralie Pierret. À 100% création ce matin, Maria Afonso avec l'artiste plasticienne Justine Aymar à la Bibliothèque nationale de France. Elle interroge notre rapport à la technologie, la mythologie, la création artistique et l'intelligence artificielle.
La création, elle se retrouve à plein de niveaux.
Justine Aymar, artiste plasticienne.
Le but, c'est de pouvoir continuer à créer le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Ça ne s'arrête pas à un simple métier.
Née à Clermont-Ferrand, au cœur des volcans d'Auvergne, au centre de la France, Justine Aymar a toujours inventé et créé. Après un baccalauréat littéraire, option art plastique et histoire de l'art, elle intègre les beaux-arts et complète son cursus de 5 ans par un master en conduite de projets culturels. Depuis une dizaine d'années, Justine Aymar travaille avec l'intelligence artificielle. Elle présente une œuvre, Le Chant des Sirènes, lors de la première édition du festival Nous. Justine Aymar a plongé dans les fonds de la BNF. Elle a extrait de manuscrits les sirènes pour générer de nouvelles visions dépassant les stéréotypes modernes.
Ce qui a retenu mon attention, ça a été ce petit corpus à l'intérieur des millions d'exemplaires de la BNF qui s'attache à la reproduction de l'image de la sirène. Donc on a été à la pêche avec des algorithmes de la BNF, des conservatrices, des conservateurs, beaucoup de choses qui sont ressorties notamment du Moyen-Âge. Et ce qui est assez fascinant, c'est que notre vision de la sirène a été vraiment façonnée par Disney, alors que la sirène était aussi une femme oiseau, une sorte de créature presque un peu effrayante, créature mythologique, beaucoup plus noire et monstrueuse.